France Culture, rue des Écoles, Grand Amphi.
Et c'est donc ma thèse en 180 secondes, extrait.
Quand on se représente les futures grandes découvertes en biologie dans un futur plus ou moins proche, on s'imagine qu'on pourra peut-être remplacer nos cellules qui sont lésées ou dégénérescentes ou même vieillissantes pour les adeptes de la vie éternelle et qu'on pourra les remplacer à partir de cellules qui viennent directement de nous. Donc l'idée, ce serait de prendre des cellules qui sont disponibles directement sous la peau, par exemple, et de les forcer à changer d'identité pour devenir, par exemple, neuronales, pour aider pour la maladie d'Alzheimer, par exemple, à recréer des neurones. Alors ça paraît un doux fantasme de chercheur qui se prend pour Dieu, ouais, ça nous arrive pas mal. Mais en fait, ça existe déjà dans la nature, une cellule différenciée qui va pouvoir changer d'identité, et c'est l'un des, de ces processus que j'étudie pendant ma thèse. Alors ça prend place dans ce petit ver, là, qui n'est pas plus grand, qu'un millimètre. Alors rigolez pas, on a 50% de gènes en commun avec ce petit ver. Et un phénomène absolument extraordinaire qui m'a captivé tout de suite, dans son rectum, il y a une cellule qui va avoir une crise identitaire de fou et qui va en avoir mal, vraiment marre de sa condition rectale, avoir envie de devenir un neurone. Donc elle va sortir complètement du tube digestif, aller un peu plus loin et devenir un neurone parfaitement fonctionnel. Alors normalement, une cellule spécialisée, elle reste cantonnée dans son destin cellulaire jusqu'à sa mort. Donc là, c'est l'ascension sociale rêvée pour une cellule. Donc du coup, j'ai été super intéressée par ce sujet. Et ma thèse m'a permis de découvrir plusieurs gènes impliqués dans cette reprogrammation cellulaire. Alors certains gènes vont complètement empêcher cette cellule rectale de changer d'identité. Hein. Ils vont la retenir dans le rectum, un peu à l'instar d'un mauvais conseiller d'orientation qui vous dit « faites le même métier que vos parents, oubliez votre rêve de gloire, t'es né rectal, tu finiras rectal ». Et finalement, vous avez d'autres gènes qui sont, eux, ils vont promouvoir ce changement d'identité un peu à l'instar d'un prof un peu mentor qui va vous dire « faites une thèse, même vos origines populaires ne vous empêcheront pas de faire une thèse. En fait, je crois que je me suis beaucoup trop identifiée à cette cellule rectale. » C'est un peu ce qui m'est arrivé.
Voilà, je crois que tout le monde aura compris à quel point nous avons changé de sujet dans Grand Amphi. En plein débat sur la valorisation de la recherche et l'employabilité des docteurs en France, le concours « Ma thèse en 180 secondes » lancé au printemps par la Conférence des présidents d'université et le CNRS a remporté, Marie-Caroline Missire, un succès phénoménal.
Oui, l'idée est inspirée du concours 3MT, ou pour ma thèse en 3 minutes, qui a été conçue par l'université du Queensland. Et elle est toute simple, il s'agit de résumer des années de recherche en 3 minutes et au-delà, surtout de rendre accessible la science au plus grand nombre. Alors la finale de ce concours francophone s'est tenue à Montréal le 25 septembre, c'est tout récent. Et pour notre plus grande fierté, à Louise Touré et moi-même, ce sont deux jeunes chercheuses françaises qui ont remporté les deux premières places, Noémie Mermet et Marie-Charlotte Morin. Marie-Charlotte Morin, donc c'est donc une championne au débit pressé, vous l'avez entendu, que nous recevons aujourd'hui. Elle est en duplex de Strasbourg. Bonjour Marie-Charlotte.
Bonjour.
Alors vous êtes doctorante à l'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire de l'Université de Strasbourg. Vous avez non seulement remporté la seconde classe de ce concours, mais aussi obtenu, et on comprend pourquoi en écoutant l'extrait sonore, le prix du public avec votre thèse, alors attention, sur le rôle des protéines LIN15A et rétinoblastome dans la reprogrammation cellulaire directe in vivo chez C. elegans. Alors j'ai certainement très mal prononcé. Mais Marie-Charlotte, ma première question, c'est que vous n'avez pas 3 minutes, mais plutôt 3 secondes pour nous expliquer simplement l'intitulé de votre thèse.
Voilà, 3 minutes, c'est déjà court. Alors 3 secondes, je peux en prendre 15 quand même.
On verra. Alors,
en fait, justement, comme vous avez passé l'extrait avant, je travaille sur un phénomène extraordinaire où une cellule va changer d'identité. Et même si ça prend place dans un animal, on a beaucoup de gènes en commun. Et on veut s'inspirer de la nature pour pouvoir un jour manipuler nos propres cellules et pourquoi pas remplacer nos cellules manquantes en toute sécurité.
Eh ben c'est parfait, t'es même en dessous de 3 secondes, je crois. Marie-Charlotte Morin, que représente pour vous cette victoire de deux femmes dans un concours scientifique ?
Bon, alors, je ne suis pas forcément très girl power, mais on va dire que ça ne m'étonne pas parce qu'on a un talent bien supérieur aux hommes, mais parce que statistiquement, en fait, on était beaucoup plus nombreuses à se présenter à ce concours. Il y a eu beaucoup plus de femmes. En national, je crois que c'était plus des 3/4 des candidats étaient des femmes, et en international, c'était les 2/3, je crois. Donc, finalement,
pour quelle raison, à votre avis ?
C'est dur de se prononcer là-dessus parce que j'aime pas trop les stéréotypes de genre ni les corrélations, mais je sais pas, peut-être que quand je parlais à mes collègues masculins de ce concours, eux ils pensaient peut-être que j'allais perdre mon temps, que ça allait pas trop me servir pour ma carrière, ils sont peut-être un peu plus carriéristes, vous voyez, et du coup ce qui concerne pas la science pure, ça les intéresse moins, peut-être, je sais
là,
pas.
Là ça concerne quand même la science pure, mais c'est peut-être plus un exercice de communication.
De communication, voilà, exactement. C'est pas un concours d'excellence scientifique, c'est un concours de vulgarisation, ouais.
extraordinaire talent de vulgarisation. On l'a entendu, j'ai regardé toute la vidéo, vraiment, il faut que tout le monde la voit, c'est absolument formidable et ça ne dure que 3 minutes. Mais ce talent de vulgarisation, est-ce qu'il est très particulier par rapport à votre talent scientifique sur lequel je ne peux absolument pas me prononcer par ailleurs?
Je ne sais pas, est-ce que j'ai un talent inné ou pas, je ne pourrais pas me...
Non, mais est-ce que c'est un exercice tout à fait différent?
Ah, bien sûr, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si vous avez un public devant vous qui est complètement initié au jargon que vous utilisez, on a l'habitude, hein, ça n'a pas besoin d'être divertissant, c'est pas en 3 minutes. Donc, et là, il faut parler à des gens qui n'y connaissent rien. Et c'est ça qui m'a attirée dans ce concours. C'est un autre exercice. Voilà.
Et qu'est-ce qui vous a... Vous dévoilez une partie de la réponse, mais fondamentalement, qu'est-ce qui vous a poussé à y participer? Puisque si j'ai bien compris ce que vous disiez au départ, c'était pas forcément valorisé dans le milieu universitaire classique. Qu'est-ce qui vous a séduit, intéressé?
J'ai toujours été intéressée par la vulgarisation. Ça fait la deuxième année où je fais la fête de la science. On va déjà à la rencontre des gens, essayer de les intéresser, de leur dire ce qui se passe dans les laboratoires, parce que c'est un peu obscur finalement. Qu'est-ce que c'est une thèse pour les gens? Donc ça m'a beaucoup plu. Et puis aussi, c'est les émissions comme C'est pas sorcier ou même Science et Vie Junior qui m'ont intéressée à la science. Donc là, être acteur de la recherche et pouvoir faire, partager ça, c'était génial. Je me suis dit, tiens, c'est à mon tour, super. Et j'aimais bien le format, les 3 minutes, c'est court, c'est relativement dans l'air du temps. Et ça permet d'accrocher des gens en fait, qui ne sont pas spécialement intéressés par la science au départ. Et juste 3 minutes, ils vont cliquer dessus pour voir ce que c'est. Et ça peut peut-être faire une accroche en fait, pour que les gens s'intéressent enfin à la biologie.
Mais ça vous a demandé un effort considérable non, de résumer 4 années de recherche en si peu de temps. Je pense qu'il y a beaucoup de travail derrière.
Alors justement, c'est un peu ce qu'on confond un peu ce concours. On dit résumer sa thèse en 3 minutes, c'est pas vraiment ça. On va juste essayer de faire comprendre les enjeux de nos recherches. C'est impossible de résumer sa thèse. Ça fait une année par minute. Je sais pas si vous imaginez, mais c'est juste impossible. Et du coup, c'est pour ça que c'était un peu décrié. Il y a pas mal de gens qui ont dit que c'était le symbole du drame de notre société. Vous savez, vitesse, vernis, communication. Alors que là, le but, c'était pas ça. C'était vraiment créer cette accroche, quoi. Pour le public et pour qu'on puisse communiquer un petit peu plus sur la recherche.
Et ça a plutôt fonctionné. Alors justement, qu'est-ce que ça vous a apporté en termes de reconnaissance, de visibilité, de prestige?
Oh, le prestige, je sais pas. Déjà, j'ai pu prouver que ma façon de communiquer la science, elle a l'air de plaire. Donc, moi, ça me fait plaisir parce que je sais pas si je vais continuer dans la recherche. Donc, si je veux plutôt aller dans la vulgarisation ou dans le journalisme scientifique, je me dis que j'ai un peu plus mes chances. Et surtout, ce genre de concours, je pense que ça a apporté pas mal pour la recherche fondamentale parce que mon sujet est extrêmement fondamental. Et c'est super important d'expliquer aux gens que c'est important pour la suite, que les applications derrière de la recherche ou le rectum d'un verre, qu'on s'en fout en fait. Eh ben non, il y a quelque chose d'intéressant. Et si les gens ne s'intéressent pas à ça, comment voulez-vous qu'on soit financé? Parce qu'il y a une grosse partie de la recherche qui est financée par les dons des Français. Moi-même, l'année prochaine, ma 4e année, c'est grâce à la FRM et grâce à une association qui vit des dons des gens. Donc c'est super, ça a pu m'apporter en fait, ce concours où j'ai pu essayer de rendre un petit peu plus hype la recherche fondamentale. Voilà.
Et vous l'avez évoqué dans votre réponse, mais vous nous avez laissé entendre que... vous ne saviez pas encore à ce stade ce que vous alliez faire dans les années qui viennent. Vous parlez de journalisme scientifique. Vous voulez continuer la recherche, Marie-Charlotte Morin?
Là, présentement, je crois qu'en fait, plus j'avance dans ma thèse, et Dieu sait que j'aime bien que j'adore mon métier, mais en fait, c'est plus une question d'opportunité, de poste extrêmement restreint, et les conditions, justement, de la recherche qui fait que je vais sûrement pas continuer dans cette voie-là, quoi.
Abandonner votre métier de chercheur?
Abandonner. J'adore quand on dit abandonner, j'ai l'impression que c'est un échec incroyable. Alors que non, peut faire autre chose. Il y a une vie après la thèse, en dehors de la recherche. Et oui, je pense que je vais partir sur autre chose, mais rester dans la science, parce que j'aime toujours la science.
Et on l'entend en vous écoutant.
Oh, merci.
Merci beaucoup, Marie-Charlotte Morin. Merci, Marie-Caroline Missire.
Merci.